Voilà ce qu'on peut tenter pour une réunion aussi informelle que la nôtre. Alors, on va ouvrir un peu le débat par quelques questions. Un micro va se promener spontanément dans la salle. J'attends donc vos questions. On pourra prolonger tout à l'heure la conversation dans le salon, puisque je serai à la table 12, on pourra continuer à parler. Alors, y a-t-il des questions sur tout ce qui a été dit, fait, tout ce que j'ai dit et beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire parce que difficile de parler de tout?
Suivre, pardon, la
Oui.
capacité thoracique intervient, je n'arrivais pas à suivre votre rythme dans la montée du i et après redescendre. Et tout au début, quand vous avez parlé du ou, pour moi, quand j'inspirais, c'était un u et quand j'expirais, c'était un o. Donc je sentais très bien la différence entre le u et le o. Or, vous n'avez pas parlé du tout du u.
Non, c'est vrai que le U c'est une voyelle un peu neutre, typiquement française. En Italie, ce serait le OU. Donc, c'est un peu comme les E muets ou EU, hein, qui sont aussi des voyelles neutres. Alors, il faut échapper justement à ces termes de capacité thoracique. Ça, c'est quelque chose qui est très bloquant pour quelqu'un qui. Voilà. Bien sûr que les poumons fonctionnent. Ce serait tragique. Mais. Faut s'imaginer que le diaphragme est comme une ombrelle, c'est poétique, bon, c'est quand même plus poétique que la capacité thoracique, je suis désolé. Mais le diaphragme est une ombrelle qui descend, hein, sur l'inspiration, et comme cette ombrelle descend, elle va chasser les viscères vers l'avant, donc on va avoir cette sensation justement de gonflement du ventre comme un ballon, on dit parfois. C'est pas simplement là que ça se passe dans la totalité de cette zone. Hein. Les taoïstes en parlent bien, du champ de cinabre inférieur et de l'océan du souffle, de ces résonances justement globalisantes. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à la proposition que je peux faire, il y a une transformation de cette proposition et que certaines voyelles vont sortir. Le tout, c'est de savoir pourquoi j'ai sorti telle voyelle et pas telle autre. Hein. Pourquoi je suis resté dans ce U qui est plus un U neutre par rapport à l'exercice proposé. Donc là, déjà, il y a aussi un champ d'investigation qui est très intéressant. Et c'est aussi par la modification de la cavité buccale. Vous avez peut-être entendu les harmoniques qui passent. Hein. Bon, il y a une technique que j'ai développée qui s'appelle l'harmonicothérapie, où justement on travaille sur les 16 fréquences harmoniques de la voix, et ces 16 fréquences harmoniques nous permettent justement de stimuler des zones du corps, je pensais tout à l'heure à l'hypophyse et à l'épiphyse, qu'on ne pourrait pas stimuler avec la voix appuyée parce que ça se situe sur des octaves qui sont très très aiguës. Donc, je ne vais pas rentrer dans la série harmonique parce que ce serait peut-être un peu complexe, mais on a 16 fréquences qui vont s'étaler du son fondamental que vous émettez jusqu'à 3 octaves au-dessus. Hein. Donc, travailler justement l'harmonique, qui est en quelque sorte la cellule du son, eh bien, c'est travailler la timbralité de notre voix, le timbre de notre voix. C'est de travailler aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui résonne en nous? Quelles sont les musiques intérieures qui résonnent en nous? Et à quoi ça se rapporte tout ça?
Tout à l'heure, vous disiez que le A était une voyelle d'ouverture. Le O, alors, qu'est-ce qu'il signifie, lui, quand on sort un O d'abord?
Alors oui, je parlais du A comme voyelle d'ouverture. Dans certaines traditions, on le place au niveau du cœur, donc c'est une autre ouverture. Moi, je le place au niveau laryngé. Je place surtout au niveau laryngé parce que je fais travailler, par exemple, avec des H aspirés, qui permet justement de rentrer le ventre pour des personnes justement qui ont du mal à projeter leur voix, qui ont des problèmes de gestion du souffle. En faisant le ha, on va avoir donc cette ouverture. Et aussi, lorsqu'on a l'examen en quelque sorte clinique de la personne qu'on a en face de nous, on voit très bien ces problèmes déjà dans la façon dont elle va articuler. Si elle a les lèvres qui sont à l'intérieur, si elle n'arrive pas à mobiliser le masque facial. Donc il y a déjà là toute une série de signes. Hein, si elle a une perte d'énergie après avoir émis des sons, si elle a une pâleur du visage, enfin, on retrouve des indications qu'on pourrait retrouver en musicothérapie dans le test de Verdot-Paillès, par exemple, où on a une analyse justement de tous les une analyse clinique de tout cela. Alors pour moi, le O se situe donc au-dessus du A, donc au niveau du masque facial, au niveau frontal. Je rejoins en ça la tradition du OM. Bon, petite parenthèse dans le yoga, le OM correspond au centre ajna, et le centre ajna se trouve dans la zone frontale. Hein, voilà. Mais, par exemple, lorsque je travaille dans des instituts universitaires de formation des maîtres, je ne vais pas parler du OM. C'est souvent mal vu, mais ils chantent quand même le OM parce que ils font O et ils ferment la bouche. En fermant la bouche, ils ont fait le M, donc ils ont fait le OM. Hein. Donc voilà, pour dire que ce sont des sons, on parle de l'universalité du son OM, mais oui, parce qu'on l'a spontanément. Hein. On a à la naissance un nombre de phonèmes incalculable, et c'est après que il y a une réduction progressive par l'éducation de notre capacité justement à émettre des sons. Donc le O, je le mets en concordance avec l'hypophyse, par exemple. Donc voilà. Il faut savoir aussi que la voix, la stimulation vocale, eh bien, je parlais tout à l'heure des sécrétions hormonales. Au niveau de l'hypothalamus, par exemple, on va avoir aussi des hormones qui vont être sécrétées, en particulier un phénomène de antidouleur, par exemple, hein, ou d'autres hormones comme la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Enfin bon, il y a toute une série d'hormones comme ça qui sont très... Qui vont être stimulés par la voix. C'est ce qui nous intéresse.
Merci. Bonjour. À qui s'adresse la thérapie vocale ? À qui s'adresse la thérapie vocale ?
Oui. La thérapie vocale s'adresse à chacun d'entre nous, d'abord, parce que je pense qu'on a tous un besoin de mettre en son ce qu'on a pas pu mettre toujours sur des mots, et ça permet déjà de faire le point justement d'une manière parfois on pourrait dire non conventionnelle par rapport à ce qu'on a engrangé en nous, hein, ce que je pourrais appeler mémoire archaïque. Les sons ce sont comme des batteries d'énergie. Et dans ces batteries, on va mettre une programmation. On va y mettre quelque chose. Et ça va nous permettre d'avancer. Parce que dans le chant et dans le son, ce qui est important, c'est ce qui se passe avant, la préparation, se préparer à chanter, à émettre des sons. Et c'est ce qui va se passer après, le prolongement de chaque son. Comment je vais me sentir après une séance ? Est-ce que les nuits suivantes, il va y avoir des rêves, par exemple ? Est-ce qu'il va y avoir la résurgence d'une situation passée ? Tout ça, ce sont des révélateurs. Donc forcément, la thérapie vocale s'adresse à chacun, chacune d'entre nous, et sur un plan plus spécialisé, à toute une série de pathologies. Donc c'est à la fois, il y a des expériences qui ont été faites par exemple par rapport à des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Bon, on a, en les faisant simplement chanter des chansons, hein, eh bien il y a justement la résurgence d'une mémoire qu'on pensait définitivement perdu. Donc, il faut rappeler aussi tout le travail en musicothérapie, en thérapie vocale, par exemple en préopératoire, on sait que le son, les sons vocaux permettent d'être beaucoup plus relaxés, il y a nécessité d'avoir moins d'anesthésie, par exemple, il y a moins de saignement. Enfin bon, on a fait toute une série de, j'allais dire, d'études, on le sait ça maintenant. Voilà. Donc, c'est à la fois pour chacun d'entre nous et aussi pour des thérapies particulières. Alors, en chant prénatal, bien évidemment, hein, en chant prénatal, résonance du bassin, associer le mouvement au son. Hein, on peut faire pratiquer justement des sautillements. Et ce qui est intéressant en chant prénatal, c'est que justement, la future maman a des résonances graves. Elle peut expérimenter des résonances graves qu'elle n'aura plus par la suite. Et ça, c'est très, très important. Donc, quelqu'un qui habituellement a des problèmes de souffle, par exemple, eh bien, justement, par ces résonances graves supplémentaires, va pouvoir vraiment prendre conscience de cela. Et j'associe aussi la voix, c'est la voix de la mère, mais c'est aussi la voix du père. Hein. Moi, je fais mettre, par exemple, un bol chantant tibétain sur le ventre de la mère. On peut aussi projeter, le père peut aussi projeter des sons. Hein. Donc, ça rejoint aussi tout le travail qu'on peut faire en aptonomie, enfin, tout un travail qui est complémentaire. Donc, le champ est très large.